dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
Now what's my definition?
A dream.
My definition.
A dream.
My definition. My definition is this, my definition.
A dream.
My definition. My definition.
A dream.
My definition is this.
I have a dream.
Et bonjour, escapadiens, escapadiennes, heureuse de vous retrouver dans le royaume de l'intermédiaire, en compagnie de Pascal sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1, ainsi que nous retrouver sur le www.radioescapades.org. Voilà, alors aujourd'hui dans le royaume de l'intermédiaire, je vous invite dans un intermédiaire que nous ne connaissons plus aujourd'hui, mais que nos aïeux ont apprécié quand ils ont apprécié ce 7e art tout nouveau. Et sans parole. Alors nous allons commencer cette petite introduction sans parole d'une musique qui peut-être réveillera les mémoires. Voilà, c'était quelques musiques de films et d'un film et d'un grand film que je regarde toujours avec beaucoup d'émotion, qui est The Kid de Charlie Chaplin. Alors évidemment, dans ce royaume de l'intermédiaire, je veux parler d'un monde où tout d'un coup la parole n'a pas besoin d'être là, mais juste les émotions, les éclairages, les mises en scène, le théâtre. Et tout ça, filmé en noir et blanc, donne une émotion particulière. Qui n'a pas versé sa petite larme dans The Kid ? Qui n'a pas rigolé dans The Kid ? Voilà, et toutes ces émotions sont là pourtant, et toutes ces émotions sont exprimées par les spectateurs sans parole. Alors évidemment, je vais vous parler de cette naissance du cinéma muet. Alors son petit aperçu historique, souvent considéré comme une époque dorée du 7e art, a marqué l'histoire par son innovation et sa créativité entre 1895 à peu près jusqu'à 1929. Des réalisateurs tels que Gans, Dreyer, Murnau ont façonné un art visuel captivant. Les acteurs tels que évidemment Charlie Chaplin ont transmis des émotions profondes grâce à des performances puissantes. Que évidemment la parole du coup réduit. Je ne dis pas que ceux qui parlent n'ont pas évidemment un métier dans les mains qui savent exprimer, mais quand même sans la parole ça demande un exercice bien plus grand où l'âme, je crois évidemment, a besoin de captiver nos esprits. Les films muets, malgré l'absence de dialogue, ont su captiver, comme je l'ai dit, le public par des récits vibrants, des expressions saisissantes. Cette période unique a jeté les bases d'un art en constante évolution, nous laissant des chefs-d'œuvre intemporels à redécouvrir. Le cinéma muet est souvent considéré, évidemment, comme une caractéristique distincte. Et cette distinction, qui est due justement à cette absence de dialogue, donne évidemment beaucoup d'émotions à cette musique. La musique, évidemment, nous donne la perception du déplacement des personnages, de l'histoire, du ressenti. Elle permet d'explorer une créativité sans bornes grâce à la musique. Les plans fixes, les jeux d'ombre ajoutent une dimension théâtrale, captivant ainsi à chaque projection. Ensuite, nous pouvons dire qu'il y a des stars emblématiques du cinéma muet qui vont naître. Évidemment, Charlot, Buster Keaton, Douglas Fairbanks, Greta Garbo. Chacun d'eux a utilisé son talent pour faire vibrer des émotions profondes. Et puis la transition vers le parlant, évidemment, n'a pas toujours été probant. Les acteurs se sont retrouvés évincés parce que du coup ils n'avaient pas la voix qu'il fallait et se sont retrouvés doublés quand on voulait bien les garder ou alors évidemment éclipsés. Et pourquoi cette émergence du muet alors ? L'émergence du muet arrive le 28 décembre 1895, jour de la première projection publique par les frères Lumière. Ces pionniers ont ouvert les portes à un art émergent. Des films de quelques secondes juste ont évolué avant d'arriver au grand que nous allons connaître plus tard. L'art de la narration visuelle, c'est ça le muet. Et des acteurs comme Charlie Chaplin ont maîtrisé l'art de la comédie physique, captivant les audiences sans qu'aucun dialogue ne soit nécessaire. Ce langage visuel a permis aux spectateurs de ressentir des émotions intenses allant de la joie jusqu'au désespoir. Les musiques d'accompagnement ont complété cette expérience enrichissante. Les scènes ont été plongées dans un univers inoubliable. Mais maintenant, c'est le défi de les préserver. Et oui, ce que je ne savais pas. Malheureusement, une grande partie des films muets a été perdue et ont eu une grande difficulté. 75 à 90% des œuvres réalisées entre 1895 et 1929 n'existent plus. Cela soulève des questions sur l'héritage culturel que nous transmettons. Les passionnés de l'histoire du cinéma doivent se battre pour préserver ces œuvres restantes, car le cinéma muet reste une partie essentielle de notre patrimoine artistique et écoutons instrumentalement ces quelques secondes des temps modernes. Thank you. Voilà une scène très connue de Monsieur Charlie Chaplin. Évidemment, c'est le passage, vous le savez, où il perd ses manchettes et il nous fait un magnifique break. Voilà, breakdance qui a été bien avant celui de Monsieur Michael Jackson. Alors, je continue ma petite histoire du cinéma muet. Évidemment, l'absence de dialogue parlé a également conduit à plus grande utilisation des images afin de raconter des histoires, ce qui a directement influencé le développement du film documentaire. Vous n'oubliez pas ces vieux films des années 20 où l'on voit énormément de monde en terrasse de café parisienne avec les calèches et ses belles robes longues et tous habillés de noir et ça s'agite et il y a beaucoup de monde dehors. Beaucoup de gens se rencontraient. Ça s'est bien perdu aujourd'hui. Les premiers films étaient principalement donc des documentaires ou des vues qui montraient des scènes de la vie quotidienne. Les frères Louis et Auguste Lumière ont créé de nombreux films de ce genre, la sortie de l'usine de Lumière à Lyon ou l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Ces œuvres étaient des simples enregistrements de la réalité. Ces films muets ont mis l'accent sur l'observation visuelle et la captation de la réalité, deux éléments qui restent au cœur du documentaire moderne. Ils ont également démontré le potentiel, évidemment, du cinéma en tant qu'outil de documentation, d'exploration et d'éducation. En effet, bien avant le terme documentaire ne soit inventé par le cinéaste britannique John Grayson dans les années 20, les cinéastes muets utilisaient déjà le médium pour enregistrer et interpréter le monde qui les entoure. L'ère du cinéma muet a donc non seulement vu la naissance du cinéma en tant qu'art et industrie, mais elle a également jeté les bases de ce qui serait le documentaire de nos jours. Les techniques et approches développées pendant cette période ont continué à influencer les documentaristes pour les décennies à venir, faisant de l'ère du cinéma muet une période fondamentale dans l'histoire du documentaire. Car parfois, les images suffisent. L'art du storytelling visuel dans le cinéma muet, évidemment, a été une composante essentielle du cinéma muet. Sans la possibilité de recourir au dialogue parlé pour faire avancer l'intrigue ou pour expliquer les détails de l'histoire, les cinéastes ont dû faire preuve de créativité pour communiquer visuellement avec le public. Cette nécessité a donné naissance à des techniques cinématographiques innovantes qui depuis ont adopté et perfectionné les documentaires. Sans dialogue parlé, tout dépendait de l'expression visuelle. Alors on utilisait l'éclairage, le montage, la composition de l'image et le jeu des acteurs pour raconter leur histoire. Ils ont rapidement réalisé que chaque élément visuel d'un film pouvait être utilisé. Alors à cela, je vous invite par exemple à un film que j'ai adoré et pour lequel je mettrai la musique pour terminer et clôturer cette émission, c'est The Wine, Le Vent. Alors c'est un film de Victor Rostrom et ce film est émouvant d'émotions. Il a été filmé dans les années 25, à l'époque du Far West encore. Vous voyez les cow-boys, vous voyez ces boules de buissons qui volent et cette dame de la ville petite bourgeoise arrive dans ce fin fond du Far West et évidemment est effrayée par la communication qu'elle a avec cet élément qui est le vent. Et je vous assure qu'il ne fait pas pâlir encore aujourd'hui. Je le trouve extraordinaire, d'émotion. Et il se suffit. Et il ne demande sûrement pas à être modernisé. C'est un film remarquable. Donc le rôle des techniques cinématographiques du cinéma muet et de la création ont été très importantes. Et ils n'ont pas eu besoin, évidemment, des effets spéciaux que l'on utilise aujourd'hui pour donner encore cette émotion, cette luminosité et cette action. Les précurseurs du film documentaire et les réalisateurs de l'ère du muet, lorsque nous parlons de l'ère du muet, nous ne pouvons pas ignorer l'immense contribution de certains réalisateurs, comme M. Flaherty par exemple, ou certaines personnes qui ont réalisé comme ce film où vous savez ce monsieur est suspendu à une aiguille, où c'est les débuts aussi des grandes cascades, où la cascade est importante, comme Monsieur Buster Keaton également, qui est un roi de la cascade des films muets. Alors, les leçons à tirer de ce cinéma muet et leur influence sur les films documentaires modernes aujourd'hui donnent profondément beaucoup d'influence sur les films d'aujourd'hui, en effet, pour leur technique narrative, leur composition visuelle et leur jeu d'acteurs. Dans l'absence de dialogue, le cinéma a dû utiliser d'autres moyens pour raconter une histoire, et cela a abouti à une utilisation créative et scénique, où du coup on utilise les éléments, le corps, la danse, les yeux, la fixation des positions, des corps. Et la transition du cinéma muet au film documentaire sonore est une évolution marquante. Car quand on y ajoute le son, là du coup on introduit celui qui regarde, le spectateur, presque à y rentrer. C'est-à-dire que c'est comme un peu une page en deux dimensions et nous passons à la troisième dimension. Et le son va apporter cette troisième dimension où du coup les spectateurs vont se sentir happés par ce qu'ils regardent en plus du son. Nous allons faire une petite pause musicale avec Réjeanne qui va chanter un morceau d'un film que j'ai trouvé remarquable de Charlie Chaplin, où là, il va parler, je crois pour la première fois, c'est les petits chaussons de satin blanc chantés par Réjeanne.
Écoutez cet air, c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les grands. Deux petits chaussons. Clown dansait gaiement. Il tournait, 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 toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. De petits chaussons et par-dessus les plus jolis yeux. Cheveux légers, légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe, comme un papillon sous les feux de la rampe. Le soir il jouait, mais tandis que les gens chansons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Ils ont tant tourné, tourné, tourné qu'un soir d'été, le cœur du clown trop essoufflé s'est arrêté. De petits chansons sur le cœur d'un clown dansait gaiement. À 20 ans, l'on ne sait pas toujours que même un clown, ça peut mourir d'amour. Thank you.
ce magnifique morceau représenté par Jeanne. Je trouve qu'elle est très très bien chantée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais moi j'avais 8-10 ans quand je l'ai découvert. Évidemment, j'ai pleuré à chaudes larmes aussi. C'était le grand rôle de Monsieur Chaplin de nous faire sortir la petite larme. Alors, à présent, je me suis demandé quel sujet je vais choisir, le grand sujet, et quel grand film muet vais-je choisir pour illustrer aussi un moyen déjà évidemment existant, c'était évidemment la propagande. Évidemment, ça, le muet a aussi fait son service. Et il a fait son service à travers un grand film dont je ne savais pas qu'il avait été évidemment boycotté et il n'avait pas pu passer dans toute l'Europe, encore moins. C'est évidemment le cuirassé Potemkin. Ce cuirassé Potemkin m'a beaucoup marqué en tant que film muet et il marque encore beaucoup les esprits si l'on se souvient de la belle scène et grande scène terrifiante, de tous ces civils évidemment tués sur les marches d'escalier, mais surtout la grande descente de ce landau qui n'en finit pas de descendre et descendre et descendre. C'est la plus belle scène cinématographique et qui a été réalisée par Monsieur Sergei Eisenstein. Ce film traite de la mutinerie du cuirassé Potemkin, évidemment, qui est un grand bateau et qui a été baptisé ainsi grâce à ce grand général de guerre sous la grande, je crois, Catherine II de Russie, au mouillage devant le port d'Odessa en 1905. De l'insurrection, et de la répression qui s'ensuivirent dans la ville, le film fut très longtemps interdit dans de nombreux pays occidentaux pour cause de propagande bolchevique et incitation à la violence de la classe. Il est considéré comme l'un des plus grands films de propagande de tous les temps. Il est choisi en 1958 comme le meilleur film de tous les temps par 117 critiques internationaux lors de l'exposition universelle de Bruxelles. Le film est entré dans le domaine public dans la plupart des pays du monde. Nous avons différents vers comme les marins du cuirassé qui protestent contre l'effet de manger de la viande pourrie. Vous avez le passage du drame dans la baie, les marins et leur chef qui se révoltent, ce dernier meurt assassiné. La mort demande justice, le corps de ce défunt est porté par la foule du peuple d'Odessa, venu acclamer les marins comme des héros. Et puis évidemment, l'escalier d'Odessa, les soldats de la garde impériale massacrent la population d'Odessa dans un escalier qui semble interminable. La rencontre avec l'escadron qui a pour tâche d'arrêter la révolte du Potemkin refuse les ordres et se rallie aux mutins. La révolte de l'équipage du cuirassé Potemkin le 14 juin 1905 fut dans le calendrier le 27 juin, pendant la Révolution russe. Et du point de vue des insurgés, c'est comme un peu les précurseurs de la Révolution d'octobre de 1917. Le cuirassé reproduit dans le microcosme de son équipage les clivages de la société russe et ses inégalités. L'une des causes de la mutinerie est la question de la nourriture. Les officiers présentés comme cyniques et cruels contraignent l'équipage à consommer cette viande avariée alors qu'eux-mêmes maintiennent un train de vie privilégié parmi l'équipage. Scène de la vaisselle, Dieu, donne-moi mon pain quotidien, s'il vous plaît. Alors ça, c'est sacré. Évidemment, c'est le cuirassé reproduit dans le microcosme de cet équipage une façon de vivre de l'époque, la dureté dans les bateaux. Et Cuirassé Potemkin est un film de commande, en effet, car la Commission d'État commande ce film. Eisenstein, pour son célèbre anniversaire de la Révolution de 1905, on lui demande de faire ce film. Et il va le faire. Période d'assouplissement économique et politique engagée par M. Lénine. Alors c'est ainsi qu'il va créer cette grève suite à cette période difficile. Et il va avoir la collaboration de Nina Agadjonova en centrant l'action sur un épisode et un seul. C'est cette mutinerie de ces matelots de navires de guerre en mer Noire, près du port d'Odessa. Alors l'analyse. Eh bien, c'est très dur. Plusieurs versions sonores ont été superposées aux images muettes d'Eisenstein. Elles sont le fait de Dmitri Shostakovich dans la version soviétique restaurée en 1976. Et cette musique donne encore plus de puissance à l'événement, évidemment à cette nouvelle version qui sera présentée à Berlin. Et évidemment, on va retirer quelques petits intertitres qui représentent des discours de M. Trotsky. Vous voyez, ce film a eu à tout moment des transformations et des petites censures. Alors, et la scène évidemment dont je reparle à nouveau, qui est la plus célèbre dans le film, du massacre des civils et la marche des escaliers monumentales. Dans cette scène, les soldats tsaristes, dans leurs tuniques d'été blanches, semblent descendre l'escalier sans fin, avec un pas rythmé comme des machines et tirant sur la foule. Un détachement de cosaques à cheval charge la foule à bas des escaliers. Les victimes qui apparaissent à l'écran sont une vieille femme avec un pince-nez, un jeune garçon avec sa mère, un étudiant en uniforme, une écolière adolescente. Cette scène dure 6 minutes. Ça peut paraître très long quand c'est muet. Le plan d'une mère qui meurt sur le sol lâchant un landau, qui dévale les marches, utilise un travelling avant en plongée, façon de filmer révolutionnaire pour l'époque. Dans la réalité, cette scène n'avait jamais eu lieu. Eisenstein l'utilisa pour donner un effet dramatique au film, évidemment, pour diaboliser la garde tsariste et le pouvoir politique en place. En 1991, la scène de l'escalier a été reprise par le photographe russe Alexei Titarensko pour dramatiser la souffrance humaine lors de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Cependant, cette scène s'appuie sur le fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations à Odessa même et non pas sur l'escalier, à la suite de l'arrivée de Potemkin dans son port. Le Times de Londres et le consul britannique rapportèrent que les troupes firent feu sur la foule, ce qui provoqua un nombre important de pertes en vies humaines. Le nombre exact de victimes n'est pas connu, bien entendu. Alors cet impact de la scène du landau sur culture populaire fut reprise beaucoup de fois, par exemple par Brian De Palma dans Les Incorruptibles, à la différence que la scène est tournée au ralenti et dans une gare. Ça a été aussi repris par Terry Gilliam dans Brazil. A repris la scène par cette fois, c'est un aspirateur qui descend les marches après qu'une femme de ménage eût été tuée lors d'un échange de tirs consécutif à la libération de Sam Lowry. Voyez, il y a quand même dans le muet pas mal de pépites à en tirer. Nous allons faire une brève petite pause en compagnie des lumières de la ville corégie d'Orange. Je vous invite à écouter ce court morceau. C'était la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette magnifique scène, les lumières de la ville où Charlie Chaplin est tombé amoureux d'une dame aveugle qui finit par revoir la vue et tenir une jolie boutique de fleurs. Et il y a juste une vitre, la vitrine qui les sépare et elle ne le reconnaît pas, bien entendu. Et lui la reconnaît, il la regarde, il observe, et elle lui parle à travers la vitre. Elle ne le reconnaît pas, et puis comme il écrase des pétales de fleurs qui tombent sur le trottoir, elle sort et l'invite à recueillir sa fleur. Elle lui tend, et lui, il l'attrape, et puis il la regarde, il la fixe. Et puis c'est lorsqu'elle attrape sa main qu'elle le reconnaît. parce qu'évidemment, quand elle était aveugle, elle ne pouvait le reconnaître que par ses mains. Et là, elle s'aperçoit que c'est lui qui a œuvré pour qu'elle puisse avoir l'opération. Et là, elle le remercie. C'est une scène que je trouve merveilleuse dans le muet, où il n'y a pas besoin de paroles, à l'amour, à la rencontre des humains, aux événements forts. Et c'est ce que j'aime dans le muet. Sur ces paroles, qui ne sont pas muettes, bien entendu, je vais vous quitter avec la musique du vent du film de Victor Rostrom, que je vous invite à regarder. Il a été fait en 1928 et c'est un magnifique film muet. Alors si je vous invite à revoir des beaux films, je vous les conseille pleinement et je vous dis à une prochaine fois sur le royaume de l'intermédiaire et en parole, mais pas muette. À bientôt.